Chapitre 3. Le dîner de Noël. Le jour de Noël, la commandante Zamzelius donne un grand dîner à Egbe. Elle préside à une table dressée pour 50 hôtes dans tout son éclat et sa magnificence. Plus de courtes pelisses, ni de bureillers, ni de pipentaires. C'est un froufrou de soie autour d'elle. L'or surcharge ses bras nus et de froides perles s'égrènent à son cou blanc. Et où sont les cavaliers? Près du poêle. Ce jour-là, il n'y a point de place pour eux à la grande table. Les plats leur arrivent refroidis et les vins plus rares. Les coups d'œil des jolies femmes ne tombent pas sur eux. Personne n'entend les beaux mots de Yosta. Mais les cavaliers sont comme des chevaux domptés, des bêtes féroces rassasiées. La nuit ne leur a donné qu'une heure de sommeil. Ils sont partis pour la messe matinale aux lueurs des brandons et à la clarté des étoiles. Ils ont vu les fenêtres illuminées. Ils ont entendu les cantiques de Noël. Leur visage a retrouvé un instant ce sourire enfantin, et le souvenir des fantasmagories de la forge s'est dissipé. Qui oserait lever la main et porter témoignage contre la commandante? Pas eux, sûrement. Elle peut bien les placer où bon lui semble. Elle peut même leur fermer sa porte. Que Dieu garde leurs âmes! Ils ne sauraient vivre loin d'Ogbe. Cependant, la commandante se rengorge entre le comte de Borg et le curé de Bro. À la grande table, on s'amuse. Là brillent les beaux yeux de Marianne Sinclair. Là résonne le doux rire de la gaie petite comtesse Donna. Les cavaliers penchent la tête comme des enfants en pénitence. Mais pourquoi les exile-t-on? Que signifie cette table au coin de la cheminée? Ne les juge-t-on pas dignes de s'asseoir en noble compagnie? Et voici que les images et les pensées de la nuit se réveillent en eux. La belle vision des sept forges tombées entre leurs mains et leur damnation qui paie le luxe et les richesses de la commandante. Le patron Julius essaye de plaisanter, et montrant à Christian Berg, le fort capitaine, un plat de gélinotte qui fait le tour de la grande table. « Il n'y en aura pas assez, » dit-il. « Je les ai comptés. Mais sois tranquille, capitaine Christian. On nous a fait cuire de bonnes corneilles. » Les lèvres de Baron Kreutz esquissent un pâle sourire sous ses grandes moustaches. Et Yosta, qui semble en vouloir à la vie de tout le monde, ajoute. « Les cavaliers ne peuvent rien demander de mieux. » Le domestique s'avance avec un plat de superbes gélinotes. Mais le capitaine Christian bouillonne de colère. N'a-t-il pas voué une haine implacable à ces vilains oiseaux croissants? Il les déteste jusque-là que, bravant la risée publique, on le voit à l'automne, pour mieux les approcher dans les champs de blé, s'affubler d'une robe de femme et se nouer un fichu sur la tête. Au printemps, quand elles mènent leur danse d'amour sur les prés verts, il en fait un joyeux massacre. L'été, ils cherchent leur nid et en écrasent les œufs. Le géant se lève, arrache des mains du domestique le plat de gélinotte. « Penses-tu donc, s'écrie-t-il, que j'ai besoin de les entendre croisser pour les reconnaître ? Offrir des corneilles à Christian Berg, poids !» Et il prend les gélinotes une à une et les lance contre le mur. « Poids, poids ! Des corneilles à Christian Berg, poids !» Et, comme les oisillons sans plumes qu'il a coutume d'écrabouiller sur les rocs, les gélinotes, l'une après l'autre, vont s'aplatir à la muraille et rebondissent dans un éclaboussement de graisse et de sauce. Les cavaliers se gaudissent, mais la voix courroucée de la commandante s'élève. « Jetez-le à la porte » ordonne-t-elle aux valets. Les valets hésitent, intimidés. « Jetez-le à la porte !» Christian Berg a entendu. Possédé de fureur, aveugle, formidable, il fait face à la maîtresse d'Egbe, comme l'ours se détourne d'un ennemi atterré contre un nouvel adversaire. Il marche vers la grande table en fer à cheval, et le parquet crie sous ses palourds. « Jetez-le à la porte !» Il s'arrête devant elle, la dévisage. Ses sourcils froncés, ses énormes poings, épouvantent les serviteurs et les hôtes. « Oui, dit-il, j'ai pris les corneilles et je les ai lancées contre le mur, et après, sortez d'ici, capitaine. »« Tais-toi, vieille sorcière, tu ne régis pas d'offrir des corneilles à Christian Berg ? Je devrais te prendre, toi et tes sacrés domaines. »« Mille diables, Christian Berg, tais-toi, c'est moi seul qui jure ici. »« Crois-tu que j'ai peur de toi, sorcière ? Est-ce que je ne sais pas comment tu as eu tes sept forges ? Tais-toi, Christian. Altringer les a léguées à ton mari parce que tu as été sa maîtresse. Tais-toi, tais-toi. Il fallait bien te récompenser de ta fidélité d'épouse, Margaretha Samselius. Le commandant qui avait l'air de tout ignorer t'a laissé gouverner les forges. Et le diable a tout mené. Mais maintenant, c'en est fait de toi. » La commandante s'assit, pâle et tremblante, et murmura d'une étrange voix basse. « Oui, maintenant, c'en est fait de moi. Et c'est ton œuvre, Christian Berg. » À ces mots, le géant frissonna. Ses traits se contractèrent et des larmes d'angoisse lui montèrent aux yeux. « Je suis ivre, s'écria-t-il. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je n'ai rien dit. Esclave et chien, rien de plus. Voilà ce que j'ai été pour elle pendant 40 ans. Elle est la Margaretha Celsing que j'ai servie toute mon existence. Je ne dis aucun mal d'elle. Et que pourrais-je dire? Qu'elle me frappe si elle veut. Je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. » Et il se jette à genoux, se traîne vers elle, saisit le bas de sa jupe et le baigne de ses larmes. Mais, non loin de la commandante, un petit homme trapu est assis. Les cheveux touffus, les yeux obliques, la mâchoire inférieure proéminente, il ressemble à un ours. C'est le commandant Samselius, à l'homme taciturne qui suit son sentier solitaire et laisse le monde aller tout seul. Il se dresse au dernier mot du capitaine, et sa femme se dresse aussi, et tous les autres. Les femmes pleurent, les hommes demeurent interdits. Les mains larges et poilues du commandant se sont lentement fermées et son bras se lève. Mais sa femme parle d'abord, et avec une note sourde qu'on ne lui connaissait pas. « Tu m'as volé, » lui dit-elle. « Oui, tu es venu comme un voleur et tu m'as prise. Par de dures paroles, par des coups, par la faim, on me força de t'épouser. J'ai agi envers toi ainsi que tu le méritais. » Le commandant secoue son poing fermé, et sa femme recule de quelques pas et reprend. L'anguille vivante se tord sous le couteau. Femme contrainte prend amant. Me frapperas-tu maintenant pour ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans? Pourquoi n'as-tu pas frappé alors? Ne te souvient-il pas qu'Altringer nous a secourus, que nous montions dans ses voitures, que nous buvions son vin, que tes poches étaient lourdes de son or, que tu as accepté, sans rien dire, son domaine et ses forges? C'est alors que tu aurais dû frapper, Bernard Samselius. Le mari promène sur ses hôtes un regard circulaire. Leur visage donne raison à sa femme. On est évidemment persuadé qu'il a reçu les terres et les cadeaux comme prix de sa discrétion. « J'ignorais tout » cria-t-il en frappant du pied. « Il vaut mieux que tu le saches maintenant » répliqua-t-elle d'une voix aiguë. « J'avais peur que tu mourusses avant de le savoir. Au moins, je pourrais donc te parler librement. À toi qui fis mon maître et mon geôlier, entends-moi bien. J'ai été la maîtresse d'Altringer, la maîtresse de celui à qui tu m'avais indignement ravi. » Le vieil amour exulte dans sa voix et rayonne dans ses yeux. Elle voit devant elle son mari, le poing levé, autour d'elle 50 visages que son impudence effare. « Oui, reprend-elle, je lui ai appartenu. Il m'a donné du bonheur, et il a voulu que sa terre fût à moi, sa terre et sa maison, et ses forges, et tous ses domaines. Béni soit son souvenir. » Alors le commandant laisse retomber son bras sans frapper. Il sait comment la punir. « Hors d'ici » rugit-il. « Hors d'ici !» Elle demeure immobile. Les cavaliers écoutent, le visage pâle. Voilà donc ce qu'avait prédit Saint-Rame. Mais alors, ce contrat infernal, ces cavaliers qui meurent chaque semaine, ah, la sorcière !« Hors d'ici !» continue le commandant. « Va mendier ton pain sur les routes. Tu ne jouiras pas des richesses de Don Altringer. Hors d'ici !» Tu n'es plus rien, et si tu remets les pieds à Egbe, je te tuerai. » La commandante recule vers la porte. « Il ne te suffit donc pas, dit-elle, d'avoir fait le malheur de toute ma vie? Hors d'ici, hors d'ici !» Elle s'appuie contre le chambranle de la porte, et l'ancienne malédiction de sa mère lui remonte aux lèvres. « Sois renié comme tu m'as renié, que la grande route soit ton refuge, une gerbe de paille ton lit. » Le bon vieux pasteur de Bro et le juge de Munkerud s'approchent du commandant. Pourquoi ne pas laisser dormir ces histoires d'autrefois? Pourquoi ne pas oublier et pardonner? Mais il secoue les épaules et repousse les mains conciliantes. « Ce n'est pas une histoire d'autrefois, » répond-il avec rage. « Je n'ai rien su !» Cependant, la commandante a repris son sang-froid. « Tu sortiras d'ici avant moi, » dit-elle. « Aidez-moi, messieurs et amis, à lier cet homme jusqu'à ce qu'il ait retrouvé sa raison. » « Rappelez-vous qui je suis et qui il est. Je dirige tout le travail d'Egbe, pendant qu'il passe ses journées à regarder manger ses ours. Si je pars, une effrayante misère entrera derrière moi. Le paysan vit de ma forêt et de mon fer, le charbonnier de mon charbon, le flotteur de mon bois. Forgeron, menuisier, charpentier, je leur assure à tous le vivre et le couvert. Me croyez-vous capable de me remplacer ? De nouveau, des mains se posent sur les épaules du commandant, mais il s'y dérobe d'un mouvement brusque. « Laissez-moi » s'écrie-t-il. « Est-ce que vous voulez défendre et protéger l'adultère ? Si elle ne sort pas d'elle-même, je vous jure que je la jette à mes ours !» À ce moment suprême, la commandante se tourna vers les cavaliers. « Permettrez-vous qu'on me chasse de ma maison, cavalier ? Vous ai-je ménagé la bière et l'eau de vie ? Les fêtes et les plaisirs n'ont-ils pas été votre pain quotidien ? Non, vous ne souffrirez pas que cet homme m'expulse. » Pendant qu'elle parlait, Yosta s'est glissé jusqu'à la grande table et se penche vers une belle jeune fille aux cheveux sombres. « Tu étais souvent à bord, Ghana, il y a 5 ans, » dit-il. « Sais-tu si ce fut la commandante qui a appris à Eba Donna que j'étais un prêtre défroqué ?»« Aidez la commandante, Yosta, » répond-elle. « Je veux d'abord savoir si elle a fait de moi un meurtrier. »« Quelle étrange idée ! Aidez la commandante, Yosta !»« Tu ne veux pas me répondre, je le vois. Sa trame m'a dit la vérité. » Yosta retourne à sa place, indifférent, au milieu des cavaliers que les pensées de la nuit harcèlent et que la fureur aveugle. « On voit bien que son contrat n'a pas été renouvelé, » murmura l'un d'eux. « Au diable, la sorcière !» crie un autre. « Imbécile !» s'exclame l'oncle Eberhard. « On croirait sur ma foi que vous n'avez pas reconnu le diable de cette nuit !»« Si !» répond le patron Julius. « Mais qu'importe ! Saint-Trame est le suppôt du diable !» La commandante comprend qu'elle n'a rien à espérer de cette bande épouvantée et tumultueuse. Elle recule de nouveau vers la porte, mais la main sur la poignée de la serrure, elle se retourne encore. « Ah, traître !» s'écrie-t-elle. « Votre heure sonnera bientôt. Vous serez dispersé, et votre place restera vide. Toi, Melchior Sinclair, dont la femme a senti plus d'une fois la lourde main, prends garde. Et toi, prêtre de Brebeux, songe que le châtiment est inévitable. Capitaine Eugla, surveille ta maison. La pauvreté l'assiège. Et vous autres, jeunes femmes, Elisabeth Donna, Marianne Sinclair, Anna Stirnock, ne pensez pas que je serai la seule à fuir. Et gare à vous, cavalier. La tempête passera sur le pays et vous balayera. Je ne me plains pas, mais je pleure sur le pauvre peuple. Qui lui donnera du travail quand je n'y serai plus ? » Elle ouvrit la porte, mais alors le capitaine Christian leva la tête et dit « Pardonne-moi, Margaretha Selsing. Un seul mot de pardon et je combats pour toi. » La commandante hésite. Va-t-elle lâcher contre son mari cette force aveugle et brutale ? « Tu veux que je te pardonne ?» répond-elle enfin. « N'es-tu pas la cause de mon malheur ? Retourne chez les cavaliers, Christenberg, et réjouis-toi de ton œuvre. » Et elle sortit, laissant l'épouvante derrière elle. Ce fut ainsi qu'elle tomba, non sans grandeur. On ne la vit point s'abandonner à l'âge des espoirs. Mais l'amour de sa jeunesse bouillonnait encore dans ses vieux ans. Elle ne craignait point de parcourir le pays avec la besace et le bâton. Elle s'apitoya seulement sur la misère de ses paysans, sur l'insouciance de ses hôtes, sur tous ceux qu'elle avait protégés, nourris et soutenus. Enfin, trahie de tous, elle eut le courage de détourner d'elle son dernier ami, afin de lui épargner peut-être une action criminelle. Le lendemain, le commandant Samselius quitta Egbe et s'en fut habiter son propre domaine à Sio, tout près de là. Le testament d'Altringer stipulait qu'aucune des forges ne serait vendue ni aliénée. À la mort du commandant, elle devait passer à sa femme ou aux héritiers de sa femme. Comme le commandant ne pouvait se défaire de cet infâme héritage, ni le dilapider lui-même, il ne trouva rien de plus sûr pour en consommer la ruine que d'y installer les cavaliers en seigneurs et maîtres. Plus superstitieux que jamais, les cavaliers, hantés des prédictions de Saint-Trame, se crurent engagés d'honneur à gaspiller ses richesses. Quant à Yosta, nul ne sut ce qu'il pensait. Se sentait-il délié de toute reconnaissance envers la commandante qu'il avait fait cavalier d'Egbe ? N'eût-il pas préféré la mort à la torture de porter sur la conscience le suicide des Badonna ? Mais son chagrin, quel qu'il fût, ne se marquait jamais au trait de son visage, et ses lèvres n'en disaient rien.